Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour un sujet assez bizarre, je dois dire, assez décalé, et que nous allons traiter le plus sérieusement du monde. Oui, on insiste beaucoup. Alors, ce décalage si décalé comporte le Kama Sutra, qui en général suscite nombre de gloussements érotiques, porno, machin chose, et qui va être traité très sérieusement par Isée Dardan-Masquelier, et Mejnoun et Leïla, qui est un des très grands romans d'amour, sinon le plus grand du monde entier, et que Abdelwahab Medeb a déjà comparé dans son séminaire à Tristan et Iseut, que nous avons vu la semaine dernière, à Roméo et Juliette, que nous n'avons pas vu, et au Fou d'Elsa d'Aragon, sur lesquels il a fait de nombreuses fois. Mais il n'a jamais été confronté au Kama Sutra. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'amour, mais je pense qu'il va s'agir de choses. On va voir. Hein. Je crois qu'on est là dans le grand écart le plus grand possible. On va commencer chronologiquement. Donc c'est Isée qui va s'exprimer la première pendant 20 minutes, puis Abdelwahab pendant 20 minutes, Monsieur Medeb, n'est-ce pas ? 20 minutes. Oui, ceux qui le connaissent savent pourquoi je fais ça.
Voilà, bonsoir à tous. J'ai une préférence pour parler debout. Donc voilà, je me mets ici. Alors, vous allez peut-être être très déçus, parce qu'en effet, ça va être très sérieux. Ce Kama Sutra, quand on en parle, ça me fait toujours penser aux mots qu'avait eu un grand indianiste à propos du yoga tantrique. Il disait « il est plus célèbre que connu ». Ben oui, c'est un peu ça. Plus célèbre que connu, ça veut dire qu'en général, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le Kama Sutra. Et qu'on s'imagine qu'il y a des choses tout à fait extraordinaires, émoustillantes, etc. Ça veut dire aussi qu'il a une réputation dès son arrivée en Europe. J'en veux pour preuve que quand le transfert culturel se fait, pour la France au moins, il se fait sous les auspices du marquis de Sade, c'est-à-dire que le premier traducteur, éditeur du Kama Sutra, le fait précéder à titre de préface d'un texte de Sade. Or, le Kama Sutra n'a rien à voir avec les propositions du marquis de Sade, et il devient pour la culture occidentale le prototype du traité érotique à l'oriental. Alors là, si on avait le temps, mais j'ai bien entendu que j'avais 20 minutes, mais peut-être qu'on abordera la chose tout à l'heure, il y a tout l'orientalisme et ses représentations hein, d'un Orient qui est érotique, lascif, qui est l'Orient des courtisanes, etc. Ça vient, comme représentation, ça vient se superposer au Kama Sutra avant même qu'on l'ait lu, avant même qu'on l'ait abordé. Bon. D'abord, une présentation rapide. On pense que ce texte date du 3e siècle de notre ère. Troisième, peut-être quatrième, les datations sont jamais extrêmement précises en Inde, c'est pas ça qui intéresse les Indiens. Bon, disons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la grande période de l'Empire Gupta. Donc c'est une période où il y a un certain sommet de sophistication dans les arts, et l'érotisme fait partie des arts. D'ailleurs, le Kama Sutra revendique d'être le code ou le repère d'un art qui est l'art du plaisir. Il est composé par un brahman qui s'appelle Vatsyayana et qui tient bien à préciser à la fin qu'il a composé ce traité en totale chasteté et dans la plus profonde méditation. Voilà. Précision qui en fait n'est pas sans intérêt, puisqu'elle assimile son travail à une ascèse. Celui qui compose un traité est en quelque sorte un ascète, parce que le travail du traité, comme les Yoga Sutras, comme bien d'autres textes qui sont des traités, est un travail qui implique beaucoup de concentration, et qui implique un haut niveau d'analyse, de descriptions éventuellement, dans le cas du Kama Sutra, il y a en effet des descriptions, et qui implique aussi de faire une sorte de synthèse qui vaille pour toute une partie de l'activité humaine. Kama Sutra, ça peut se traduire par aphorisme sur le plaisir. Donc un texte court qui est formé de petites phrases qui sont souvent des maximes, des sentences. Et puis j'ai traduit kama, qu'on peut traduire par le désir, mais je vais y revenir dans un instant. Il faut le traduire ici par plaisir, parce que c'est bien du plaisir qu'il s'agit. Alors voici le résumé qu'en font deux indianistes que j'aime beaucoup, et je pense, Catherine, que c'est pas vous qui me contredirez en disant que si je dis que ce sont d'extraordinaires indianistes, c'est Wendy Doniger d'abord, une grande américaine qui a succédé à Mircea Eliade à la Divinity School de Chicago, et que je suis heureuse d'invoquer dans ce lieu ici parce que c'est une disciple de Lévi-Strauss. Et puis Sudhir Kakkar, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, donc le grand psychanalyste. Alors ils ont fait une traduction en français, enfin ils ont revu une traduction plus exactement, du Kama Sutra, qui est paru au Seuil en collection de poche, et leur introduction est tout à fait intéressante. Alors voici ce qu'ils disent pour résumer. Ils disent au fond, les Kama Sutras, c'est une pièce de théâtre en 7 chapitres. Et je crois en effet qu'il s'agit un peu de théâtre, où les personnages, je dirais, sont des emblèmes. Il y a l'amant, il y a la courtisane, il y a la vierge, il y a la femme mariée, etc. Alors, ils décrivent le déroulement de la chose ainsi. À l'acte 1, au sens littéral, on dispose la scène pour la pièce. Le célibataire met ses pions en place. À l'acte 2, il perfectionne sa technique sexuelle. Ensuite, il séduit une jeune vierge à l'acte 3. Il se marie et vit avec une ou plusieurs femmes à l'acte 4. Lassé d'elle au singulier ou de toutes, il séduit les femmes d'autrui, c'est l'acte 5. Et quand il s'en lasse, il fréquente des courtisanes, acte 6. Enfin, quand il ne peut plus du tout y arriver, il recourt à l'équivalent du Viagra dans l'Inde ancienne, aphrodisiaque et charme magique. C'est l'acte 7. Voilà. Donc nous sommes face à un manuel d'éducation et de séduction sexuelle qui en fait transpose les usages de cours, les usages des princes qui ont plusieurs, parfois de nombreuses épouses, qui les transposent pour un milieu urbain aisé, un milieu d'hommes qui sont quasiment rentiers ou qui sont présentés comme tels dès la naissance et qui peuvent passer leur vie à jouir de tous les plaisirs des sens. Il est bien évident que ce genre de société existe très peu et donc on est face en fait à un monde imaginaire où encore une fois les personnages ne sont pas des caractères vivants, des personnes, mais sont plutôt des emblèmes. Et il faut à ces hommes un guide propre à développer leur imagination, parce que les plaisirs s'émoussent avec la répétition, ça c'est quelque chose d'assez universel. Et il faut un guide qui raffine le plus possible les plaisirs. Pièce de théâtre, je crois aussi que ça définit bien le Kama Sutra, au sens où derrière les personnages qui s'agitent sur la scène, qui font l'amour sur la scène ou qui se séduisent, il y a un personnage qui les anime, comme sur un théâtre de marionnettes, et ce personnage, c'est le désir. Avec un grand D. Ce que les Indiens, quand ils parlaient sanskrit, appellent kama, le désir, qui vit à l'intérieur de chacun, au plus profond de chacun. Ça, c'est vraiment une croyance très forte dans l'Inde. Je vais y revenir. Et les personnages sont des objets, et le seul véritable sujet est le désir, qui les manipule, qui les tient par l'intérieur d'eux-mêmes, qui les investit ou qui les abandonne, mais en tout cas qui s'impose à eux par son omniprésence, par son urgence, par sa violence même. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Alors le désir, d'abord, j'allais dire le désir à l'indienne. Ben, il hante l'anthropologie et la métaphysique indienne. Souvent, on pense que l'Inde... Enfin, on est partagé. On a une vision contradictoire de l'Inde. D'un côté, l'Inde, c'est l'Inde des grands ascètes. C'est l'Inde du Bouddha qui dit « si vous cherchez une origine à la souffrance, ben, elle est dans le désir, bien sûr ». Et de l'autre côté, on a l'image d'une Inde qui a développé de manière effrénée les plaisirs de la sexualité et de la sensualité plus généralement. Alors, il faut dire que l'Inde a reconnu très tôt que l'homme est un être de désir, qu'il ne vit que par et pour le désir. Au point qu'une grande indianiste qui s'appelle Madeleine Biardot a parlé pour l'Inde d'une anthropologie du désir. Elle sait aussi représenter cette Inde des dieux qui désirent et qui se font désirer. C'est pour ça que le mot kama, et je voudrais y insister un petit peu, ce mot qui désigne le désir, offre une très large palette de couleurs, de tonalités. Au sens le plus étroit, je dirais, c'est l'impulsion qui cherche sa satisfaction temporaire par le biais des sens, que ce soit le goût, l'odorat, l'ouïe, mais surtout la vue et le toucher qui sont privilégiés dans le monde indien. Et la satisfaction, elle est trouvée dans l'imagination sensuelle, plus particulièrement par le biais de la sexualité, mais c'est une satisfaction temporaire. C'est donc aussi le plaisir, la jouissance, jusqu'à l'extase, et c'est là le sens commun du Kama Sutra, où il s'agit avant tout de plaire, de donner et de recevoir du plaisir. Et puis il y a au plus large, au plus vaste, kama, qui désigne une sorte, c'est un mot complexe, je dirais, qui désigne l'entrelacement inextricable de la quête et de ce qui la comble, donc du manque et de la plénitude, de l'attente et du ravissement, de la brûlure et de la paix ou de la pacification. Donc anthropologie du désir, mais aussi métaphysique du désir. J'en veux pour preuve que si pour le christianisme, à l'origine est le verbe, le logos, selon le magnifique prologue de Saint Jean, pour l'Inde, à l'origine est le désir. Par exemple, mais il y a beaucoup de textes qui commencent comme cela, un hymne du Rig Veda, donc le Rig Veda, la Bible de l'Inde, enfin le fondement et aussi le texte le plus ancien. À l'origine, les ténèbres étaient cachées par les ténèbres. Donc on est avant le monde, si je puis dire, on est dans cet état de mélange cosmique où le cosmos n'existe pas encore. Donc à l'origine, les ténèbres étaient cachées par les ténèbres. Cet univers n'était qu'une onde indistincte. Alors, par la puissance de l'ardeur, le un prit naissance. Le un, c'est le principe qui va créer le cosmos. Le un prit naissance. Le désir en fut le développement originel. Désir qui a été la semence première de la conscience. Texte complexe, je ne vais pas faire une explication de texte ici, ce n'est pas du tout le but de ces conférences, mais vous voyez qu'il y a une intensité des mots qui se rencontrent, l'ardeur, qui est un des aspects du désir, qui est un feu flambant et qui marque la dimension créatrice de l'origine. Il y a ce « un » qui émerge en quelque sorte des eaux originelles, et puis tout ça est sous le signe du désir. On pourrait, et là je pense à l'expression de Leibniz qui disait « bon, on cherche pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien », on pourrait dire que pour l'Inde, s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce qu'il y a du désir à l'origine. S'il n'y avait pas du désir à l'origine, alors il n'y aurait rien. Donc c'est au désir comme force principielle qu'est rapporté le fait initial du cosmos, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Du coup, l'être humain qui naît dans ce monde, que ça soit l'être humain d'il y a 50 000 ans, ou ce que nous sommes, nous, est toujours situé par l'Inde comme la résultante d'un désir qui le précède. Et je ne parle pas seulement du désir de ses parents, mais je parle du fait que, pour un hindou, on vient à un monde qui n'existe que suspendu à la prolongation d'un désir originel. Alors là, je vois deux conséquences majeures pour la pensée indienne ultérieure et pour les Kamasutras, d'ailleurs, qui sont les enfants de cette pensée-là. D'abord, c'est la possibilité de fonder une véritable théologie de la sexualité. Je veux dire que Shiva et sa Shakti, Krishna et Radha font l'amour parce qu'ils s'aiment, bien sûr, mais aussi et surtout, et c'est souligné dans les textes, pour maintenir le cosmos à l'existence. C'est qu'ils sont par excellence les désirables, qui se désirent entre eux, qui désirent les êtres humains et qui sont désirés par les êtres humains, parce que c'est la force en eux du désir qui les maintient divins et qui les maintient vivants. Et les grandes traditions mystiques de l'Inde, aussi bien que les sectes tantriques, en reviennent toujours là. Les divinités sont sexuées, ou plutôt le divin est représenté mâle et femelle, à cause de tout ce que je viens de dire. Donc si la sculpture des temples de Khajuraho, de Bhubaneshvar, de Konarak, etc. Sûrement vous avez vu ça, j'allais dire en chair et en os, ou bien dans des livres d'art indien, ou bien au musée Guimet. Si la sculpture des temples répète ad nauseam les positions qui sont recommandées par le Kama Sutra, et donc qui représentent l'union, c'est bien que ces unions sexuelles des dieux et des déesses, des héros, des nymphes et de tous les êtres qui hantent le ciel, dégagent une capacité de création toujours renouvelée, sans quoi le cosmos retournerait au néant. Et nous, avec, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une véritable, en Inde, en hindouisme, une véritable théologie de la sexualité. Et puis le deuxième point qui est une conséquence, c'est que il y a une reconnaissance pleine et entière de la sexualité humaine, comme participant de cette puissance créatrice universelle que possède la sexualité divine. Et quand Madeleine Biardot parle d'une anthropologie du désir, je pense qu'on peut dire qu'il y a une théologie de la sexualité et du désir, il y a une anthropologie du désir, elles se répondent. Ça veut dire que ça veut dire non seulement qu'il est légitime de vivre la sexualité dans tous ses états, mais aussi qu'on peut et qu'il faut voir dans l'expérience sexuelle l'un des chemins, ça n'est pas le seul, mais l'un des chemins qui ramène les individus séparés dans le giron bienheureux de la divinité. Ou bien, on peut encore dire que les hindous voient dans l'expérience sexuelle un des chemins qui ramène les égaux à leur dimension divine. Autrement dit, la sexualité fait lien entre l'humain et le divin. Alors, il y a d'autres voies, il y a les voies ascétiques, bien sûr. Mais je dirais que pour ces deux raisons, le divin et l'humain, il ne peut pas y avoir en Inde, et là on est dans le décalage entre nous et eux, il ne peut pas y avoir en Inde ce rapport étroit que nous avons entre la sexualité et l'interdit. Les dieux indiens, qui ne s'interdisent aucun plaisir, ne posent pas d'interdit sur la sexualité en tant que telle. L'expérience sexuelle peut être interdite dans une certaine voie. parce qu'elle est inappropriée à la voie que l'on a choisie. Par exemple, dans le cas de la vie ascétique, et encore, ça mériterait, cette question mériterait d'être discutée. Mais elle peut aussi être recommandée comme étant un chemin par elle-même. D'autre part, l'interdit, on le sait, appelle la transgression, ça c'est universel. Or, si les interdits et donc les comportements transgressifs existent en Inde, et ils existent et ils sont divers et fréquents, leur ressort, me semble-t-il, ne se trouve jamais dans une condamnation de la sexualité en tant que telle. C'est pas elle la coupable, en quelque sorte. Alors donc, ça explique que karma soit considéré comme l'une des finalités de l'être humain. C'est une des valeurs qui gouverne la société hindoue. Alors, il y a un système qui a été élaboré à peu près, enfin, pendant cette période Gupta, qu'on appelle techniquement le système, enfin, le système des buts de l'homme. Buts, je vais dire des valeurs. La première valeur, c'est le dharma, c'est-à-dire tout ce qui préserve l'ordre du monde. La seconde est liée au pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique, qui doit s'exercer harmonieusement, qui doit se confronter et utiliser la violence d'ailleurs et s'y confronter. C'est le domaine de l'intérêt collectif. Et le troisième but de l'homme, après dharma, la loi, l'ordre du monde, artha, qui est l'intérêt général, le bon gouvernement, le troisième but, c'est kama. Donc, le plaisir, il concerne la sphère intime et il est assimilé à un art, comme je l'ai dit. Et puis, il reste un but qui est hétérogène aux autres, qui est la libération, moksha, la libération définitive. Alors, pour ce but, on est prêt à tous les renoncements, à toutes les ascèses, à tous les vœux les plus fous, pour ne plus jamais revenir dans ce monde et être libéré définitivement. Les trois autres buts, eux, sont des buts que on appelle mondains, que les traités appellent mondains, non pas au sens de mondanité, mais ils concernent la vie dans le monde. Donc, Kama est pleinement accepté. Il fait partie des valeurs à cultiver pour qu'une société fonctionne harmonieusement. Et je terminerai par une remarque qui va dans ce sens, c'est que dans Kama Sutra, vous avez Kama, que j'ai abordé un peu, enfin tenté d'expliquer un peu dans sa vastitude, et puis vous avez d'autre part le mot Sutra. Le mot Sutra, le mieux pour le traduire, c'est la notion de code. Un code qui donne des règles pour accomplir une certaine action et qui constate que des repères sont nécessaires pour accomplir cette action. Je veux dire que c'est pas ce qu'on constate que l'esprit est inconstant et que on peut le comparer à un singe qui sautille d'arbre en arbre que on a fait le yoga. Parce que l'esprit est inconstant, alors on a construit les yoga sutras. Parce que l'être humain ne s'est pas usé du désir qui lui est interne, on a fait le kama sutra ou les kama sutras, on dit les sutras ou le sutra, au singulier ou au pluriel. C'est-à-dire que l'ambition du kama sutra, c'est pas du tout une licence effrénée. C'est au contraire, dans la mesure où l'être humain a une liberté, de l'amener à contrôler ses besoins, ses envies, ses aspirations, de manière à les couler dans une vie harmonieuse. Le Kama Sutra le dit très bien, notre texte n'est pas pour les animaux. Pourquoi ? Il le dit, il est cru. Il dit, les animaux, ils ont des périodes de rute qui sont réglées pour eux, tandis que l'être humain est libre, il a donc besoin d'un code. Donc il y a toute une réflexion tout à fait intéressante là-dessus. Il y a toute une réflexion sur la violence du désir qui doit être médiatisée, qui doit être harmonisée, qui doit être contrôlée par des postures et par la conversation, la parole, qui fait partie des techniques de l'art de Kama. Et toute cette réflexion, je vais terminer par là, amène les deux spécialistes dont je parlais tout à l'heure, Wendy Doniger et Sudhir Kakkar, a hasardé l'hypothèse, je la donne parce que là encore, en ce lieu, elle ne peut que résonner, c'est que le Kama Sutra affirme que le plaisir demande à être cultivé et quand dans le domaine du sexe, la nature a besoin de la culture.
Voilà. Merci beaucoup. Wendy Doniger, dont vous parliez, vient d'avoir un de ses livres retiré du catalogue de Penguin India à la demande des fanatiques hindous qui vont sans doute gagner les élections. Voilà. Ouais. Et Penguin India a cédé. Monsieur Medeb.
Bon, c'est une histoire qui n'a rien à voir que celle de laquelle j'aurai à vous parler. Et qui a été admirablement instruite dans notre langue par André Michel. Son livre avec Percy Camp, L'amour fou, où il décrit le mythe arabique, né à la fin du 7e siècle, et le fait que ce mythe est inaugural dans l'histoire universel et qu'il va engendrer un certain nombre de textes dans de multiples cultures. Le livre d'André Michel et de Percy Camp, qui est le résultat d'un séminaire de plusieurs années au Collège de France, répercute ce mythe en le comparant aux grandes figures de l'amour fou. De la folie d'aimer jusqu'à en mourir. Et donc là, nous voyons passer, défiler Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, jusqu'à l'amour fou Werther, évidemment, et Lot de Goethe dans le romantisme, et jusqu'à l'amour fou des surréalistes. Et aussi abondamment utilisé et utilisé à Escient, fragment du discours amoureux de Roland Barthes. Et nous verrons comment un point au moins mérite d'être retenu de ce fragment et qui s'applique à la perfection au Majnun. Majnun voulant dire le fou. Je rappellerai donc quelques éléments qui sont puisés dans le travail de Michel, qui sont puisés aussi dans la source principale en arabe, Kitab al-Arani de Isfahani, le livre des chansons, cette immense encyclopédie de 25 volumes qui nous vient du 10e siècle et qui recense la poésie, le rapport de la poésie avec le chant dans une tradition qui a déjà 2 siècles, qui a commencé avec l'école du chant de Médine, quelques 30 ou 40 années après la mort du prophète, lorsque Médine est devenue cette capitale décentrée du début d'un empire. Et là, il y a eu un moment très étonnant d'une école de chant et de vie mondaine très forte à Médine. Il y a une 50aine de pages qui se trouvent dans ce livre qui sont consacrées au mythe du Majnun. Le Majnun où les Arabes se demandent s'il a vraiment existé ou non, dès le début de leur histoire littéraire. Et on a tendance à penser qu'il n'a pas existé et que le corpus qui le concerne, les 340 pièces poétiques qui lui sont attribuées seraient œuvres collectives. Alors, le contexte de cette émergence, je rappelle tout simplement que cette folie d'aimer jusqu'à en mourir, la seule référence antérieure à ce mythe de la fin du 7e siècle, selon les informations qui circulent parmi les historiens, c'est les 60 vers qui concernent une histoire du même type située en Mésopotamie et que nous retrouvons dans les Métamorphoses d'Ovide, l'histoire de Thisbé. Mais une histoire de cette dimension-là, c'est la première qui apparaît. Elle apparaît dans le contexte, à la fin du 7e siècle, en Arabie, parmi les tribus qui ne sont pas sorties et qui n'ont pas participé à cette espèce de grand geste de conquête du monde au nom de l'islam, sur la bannière de l'islam, qui, à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, au moment de l'émergence, donc au moment où est apparu ce phénomène dans les tribus qui ne sont pas sorties, qui sont restées et qui ont été marginalisées, donc, et qui sont devenues des tribus dans les marges de l'histoire, à un moment donc où, quelques 70-80 années après cette sortie triomphante, l'espace conquis allait des frontières de la Chine jusqu'aux Pyrénées. Ce sont donc les tribus qui ne sont pas sorties et qui ont inventé cette chose très étonnante qu'on appelle en arabe « al-hubb al-udri », l'amour virginal. Je rappelle que la Vierge, en arabe, on appelle « al-adra », c'est-à-dire un terme qui provient de la même racine, « udri »,« adra », donc « amour virginal ». Et c'est dans ce contexte que va naître la figure. Il va y avoir un très grand nombre donc, d'amour-passion, avec 7 ou 8 couples qui vont devenir des couples emblématiques, et le couple le plus célèbre, le plus important, est celui qui a produit du texte, en tous les cas un texte qui a été attribué à ce personnage, c'est le couple de Qais ou Layla, Qais et Layla, du Majnoun et Layla. Et de ce qu'on appellera par la suite Majnoun Layla, le fou de Layla. Alors, il y a 2 hypothèses dans ce roman. La première situe Majnoun et Layla, Qais et Layla comme cousins, qui ont grandi ensemble, qui étaient l'un et l'autre bergers, qui donc gardaient le très grand troupeau familial, parce que c'était une famille riche, surtout et particulièrement la branche de Qais, qui était la branche la plus riche de la tribu des Moulawa. Donc, et la deuxième hypothèse, la deuxième proposition, nous retrouvons tout cela dans le livre donc, de Isfahan qui nous vient du Xe siècle, c'est, on présente Qais en jeune homme de 18-20 ans, très beau, immensément riche, grand, tout pour lui, et un peu comme le coq de la tribu. Et la rencontre avec Layla, immédiatement le choc amoureux à travers un certain nombre de femmes, à travers une ronde de femmes. Et dès le premier regard, le choc. Alors, le thème qui va être ce thème, ce schème de mythe littéraire qui va circuler après à travers d'autres littératures, qui sera investi par d'autres langues, c'est justement l'amour impossible. Et la raison de l'amour, c'est son impossibilité même. D'où a émergé cette impossibilité? Simplement, Qais a commencé à rendre publique sa passion pour Layla. Que la passion existe était accepté, mais rendre publique une passion avant le mariage est considéré comme infamant, particulièrement pour la femme. Ce qui fait que les parents, particulièrement le père de Layla, s'est dressé de toutes ses forces et tout le clan de Layla contre le clan de Qais en raison de ce qu'on appelle en arabe le teshbib, c'est-à-dire le fait de rendre public, particulièrement par le poème, son amour. Et Dès que donc cette impossibilité pour Qais de taire, d'attendre que l'union soit consacrée pour qu'il puisse donc chanter l'amour qu'il a pour Leïla. Donc c'est ce chant, c'est le poème en fait qui a rendu interdite Leïla et qui a rendu donc cet amour impossible. Alors la chose passionnante et étonnante et particulière, c'est que Mejnoun n'a jamais cherché, Qais plutôt, parce qu'il n'est pas encore Mejnoun, n'a jamais cherché à reconquérir Leïla. Il est resté strictement cantonné à ce premier moment de ravissement. Et l'intégralité de son chant va être vouée à ce premier ravissement, à cette espèce, je veux dire, de passion, de sentiment immédiat, intact, vers lequel donc qui ne va pas être, vers lequel ne vont pas se mêler, disons, les avatars de la vie commune et de la relation. C'est comme si, finalement, cette passion d'amour diluait la figure d'amour dans le champ d'amour dont la visée n'est que l'amour au-delà de la figure d'amour. C'est cela qui est en jeu. Et je crois que si on comprend cela, on comprend parfaitement comment Aragon, dans Le Fou d'Elsa, lorsqu'il avait remis en scène la figure du Mejnoun, identification du poète, puisque nous avons affaire à un Mejnoun qui avait l'âge d'Aragon au moment même où il écrivait Le Fou d'Elsa, un Mejnoun de 61 ans, aimant une femme qui n'existe pas, puisque la fiction est située entre 1487 à la veille de la chute de Grenade et qui va jusqu'à la chute de Grenade en 1492, et qu'il aime une femme qui n'est pas présente, une femme qui est absente, une femme qui est à venir, qui a pour nom Elsa, en plus un nom étranger dans le contexte arabe. Imaginez donc venant d'un monde de neige, d'un climat de froid qui n'a rien à voir avec le climat d'Andalousie, le climat méditerranéen, et qui est donc une femme, une absente, une femme à venir. L'autre élément, alors pour cet aspect, je crois que ce serait bien de vous donner la citation de Roland Barthes, parce qu'elle explicite à la perfection ce sur quoi s'est concentré Mejnoun. Comme récit, c'est donc fragment d'un discours amoureux, roman, passion, l'amour est une histoire qui s'accomplit au sens sacré, c'est un programme qui doit être parcouru. Pour moi, au contraire, le moi c'est le sujet amoureux, cette histoire a déjà eu lieu, car ce qui est événement, c'est le seul ravissement dont j'ai été l'objet et dont je répète et rate l'après-coup. Donc Mejnoun n'a pas cherché à répéter et rater l'après-coup. Il est resté concentré sur ce temps premier, le moment même où émerge le sentiment d'amour. L'énamoration donc est un drame. Le rapt amoureux, par moments hypnotique, a lieu avant le discours et derrière le proskénum de la conscience. L'événement amoureux est d'ordre hiératique. Et cette déclamation d'un fait accompli, figé, embaumé, et le discours amoureux. Je crois que là, ça définit à la perfection l'opération que les Arabes attribuent à Qais. Alors, l'empêchement et l'impossibilité, évidemment, a fait de Mejnoun un sauvage. Il a décidé de quitter la société. Et il y a cette deuxième séquence, qui est très, très importante, qui fait de Mejnoun le frère d'Orphée. Il va se mettre à vivre avec les bêtes, complètement nu, et de se retirer du monde. Il sera en lien seulement avec quelques amis qui viendront lui rendre visite, et dont il acceptera la visite, parce qu'il va leur transmettre le poème. le poème qu'il vient d'écrire. Et ce poème va être par la suite diffusé. Alors, tout cela est en lien avec ce qu'on appelle en arabe « al-fitna ». Le fitna est, la fitna étant un mot qui dit solidairement et en même temps la séduction et la sédition. Le poème est la séduction d'amour. Cette séduction d'amour au temps du Teshbib a créé la sédition, parce qu'il y a eu nombre de fois des tentatives de la part du clan de Majnoun d'essayer donc que Qais puisse retrouver Layla. Et le clan de Layla, les parents de Layla, présentaient à de telles demandes des refus catégoriques, allant jusqu'à réclamer de la part de l'autorité d'agir. On était au bord d'une guerre civile. Donc là, nous avons très précisément cette idée que la séduction est productrice de sédition. Lorsque finalement Qais, devenu Majnoun, devenu fou, vivant avec les bêtes, a décidé d'abandonner toute quête de Layla, il pouvait à ce moment-là débarrasser de l'aspect séditieux, diffuser la séduction du poème. Donc, en neutralisant la sédition, le groupe a pu jouir de la séduction du poème. C'est à peu près, donc, dans ce sens-là que les choses ont eu lieu. J'ajouterai un autre élément du rapport avec la religion, parce que nombre de poèmes laissent entendre que la prière de Qais, la prière du Majnoun, est désormais à l'adresse de Layla, dressée comme icône mentale. C'est l'icône mentale qui va remplacer la figure d'amour et qui va même jusqu'à entrer en rivalité et en concurrence avec Dieu. Cette dimension est suggérée, elle est présente dans le poème, elle n'est pas développée, on ne va pas entrer dans cette espèce de théologie de la dissidence, mais, encore une fois, l'aspect alerte du poète Aragon, dans l'enquête qu'il avait menée, alors qu'à l'époque, les travaux d'André Michel n'étaient pas disponibles et que le corpus concernant le mythe de Majnoun n'était pas aussi profus en langue arabe, en langue française, pardon, Aragon a perçu cet aspect, mais il l'a perçu probablement par la médiation et la manière avec laquelle ce mythe littéraire a été exploité par la mystique islamique et par les soufis. Parce que, justement, Aragon jouera d'une manière très, très, très forte cette idée de l'icône mentale n'est plus, ne concerne plus Dieu, mais concerne Elsa. Et que Elsa devient objet et sujet de croyance et de prière et d'adoration. Jusque même, alors, en allant au-delà, jusqu'à le fait, à cette fameuse formule dans un vers célèbre d'Aragon, puisque Dieu n'existe point. Alors ça, c'est évidemment Aragon, l'athée qui parle et qui ne tergiverse pas là-dessus. Et alors c'est normal que toute cette potentialité d'un mythe littéraire profane, que les mystiques vont l'exploiter. Et le roman de Majnoun Layla aura évidemment nombre de versions en ce sens-là, particulièrement dans la tradition persane. Cet aspect, au reste, est étrangement, pas étrangement, parce que j'ai eu de très longues discussions avec André Michel et il m'a présenté les raisons pour lesquelles il n'a pas touché à ce corpus dans son travail sur le mythe littéraire. Mais moi-même, je n'évoquerai pas cet aspect-là, simplement je rappellerai que Il y a eu aussi une répercussion picturale, une iconographie très importante, présentant particulièrement le Mejnoun ensauvagé dans la peinture persane, une figure très présente qui est en lien avec les romans qui ont été, et le thème qui a été visité, revisité et redéployé par nombre de grands lyriques persans. C'est un thème en or, mais je retiendrai simplement un seul exemple de la manière avec laquelle Jalaleddin Rumi utilise et exploite ce thème. Cette idée où lorsque, à un moment, Rumi imagine Leïla venant vers le Mejnoun, déjà fou, sauvage, vivant dans le désert, parmi les bêtes, pour lui rendre visite, et Mejnoun qui la refuse, lui disant « Ta présence perturbe l'image que j'ai de toi, et l'image devient, l'icône devient plus importante que la figure humaine. » Pour ce qui concerne le lien avec la mystique, et là je serai, je pense, original, puisque je ne m'inspire point de Michel en vous proposant cette toute dernière séquence de ce que j'ai à vous dire, la manière avec laquelle ce mythe se répercute chez Ibn Arabi, et particulièrement dans son livre de poèmes, Tarjumen al-Ashwaq, l'interprète des désirs, où justement Ibn Arabi utilise, et il le dit d'une manière explicite, le teshbib, le dispositif de l'amour fou profane pour le réorienter vers l'amour divin. Et là, nous retrouvons avec Ibn Arabi des proximités indiennes, chinoises, en tous les cas qui nous viennent de cet Orient, de l'Orient, sur le fait que cet amour divin passe par la figure d'amour humaine qui devient le support parfait de l'épiphanie divine. Et la manière avec laquelle donc cet amour est chanté, il est chanté à la manière avec laquelle Qais chante Leïla. Et je voudrais vous présenter les quatre termes qu'utilise Ibn Arabi à la fin de son introduction, avant que l'on vienne au poème et à leurs commentaires autographes dans le recueil que j'ai cité, qui concerne donc l'amour. Le mot hawa, qui est la graine d'amour qui tombe dans le cœur, puis le mot hub, qui est la graine germe seul, sans mélange pur, puis le wid, au moment où l'amour s'enracine, se fixe, s'établit, pour parvenir au ishq, la passion qui embrasse le cœur, les organes, les pensées, les enveloppes. Et Ibn Arabi nous dit ishq émanant de ashaq, qui est un lierre épineux, une plante envahissante, comme si donc le sentiment d'amour, celui-là même qu'a senti Qais et à partir duquel il va écrire le poème pour diffuser la séduction au sein du groupe en neutralisant la sédition, lorsque donc c'est comme si un lierre épineux s'empare des organes et des viscères. Et cela évidemment nous rappelle le moment où Tristan boit le philtre, et si je me réfère à la construction de Bédier, je trouve cette citation: il semblait à Tristan qu'une ronce vivace aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens, enlacés au beau corps, disent son corps et toute sa pensée et tout son désir. Ce thème donc végétal, c'est très intéressant, Hawa c'est en lien avec l'air, hob, c'est en lien avec la graine, wid, c'est en lien avec donc l'arbre qui monte, ashr, c'est en lien avec l'envahissement, comme le lien. Et puis alors cet autre exemple, et je finirai là-dessus, qui concerne donc le corpus de Tristan, le lait du chèvrefeuille de Marie de France, la citation pour eux deux, Tristan et Iseult, il allait ainsi que du chèvrefeuille qui s'enroule autour du coudrier, une fois qu'il s'y est enlacé et attaché, qu'il a grimpé tout autour du tronc, ils peuvent vivre longtemps ensemble, mais si l'on veut ensuite les séparer, le coudrier ne tarde pas à mourir, et le chèvrefeuille aussi. Belle amie, il en est ainsi de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous.
Merci infiniment. Que va-t-on faire de toutes ces admirables choses ? Moi, je voudrais vous questionner l'un et l'autre sur un point qui m'apparaît non pas peut-être commun, mais cousin. Isaiah, vous avez bien dit que Vatsyayana, l'auteur de Kama Sutra, avait écrit ça en ascèse, ou qu'il était dans un état d'ascèse.
C'est lui qui nous le dit.
C'est lui qui nous le dit, je pense qu'il ne nous le dit pas pour rien. Et Abdel Wahab, vous avez parlé beaucoup de mystique. Donc quel rapport on peut faire entre l'adite ascèse dans les Kama Sutra, qui pour le coup est quand même un traité des codes de rapprochement sexuel. Il y a des embrassements sexuels dans toutes les postures possibles. Et la mystique, c'est exactement le contraire, où Mejnoun n'a jamais le moindre contact physique avec son icône mentale, avec sa Leïla, pas même un baiser.
C'est l'amour virginal.
Ah, c'est ça, virginal. Moi, j'aurais dit chaste, mais enfin, c'est virginal.
Pour être littéral par rapport à l'arabe.
C'est l'amour sans contact. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre les... Comment ça se noue, cette histoire-là, qui a l'air si différente et qui ne l'est peut-être pas tellement?
Déjà, on est dans deux mondes, on est quand même dans deux mondes très, très différents. Et surtout, on n'est pas sur le même plan. C'est-à-dire que le Kama Sutra, ou les Kama Sutra, comme on veut, il ne s'occupe pas tellement de l'amour. C'est des aphorismes sur le plaisir. Alors, il côtoie l'amour par le thème du désir.
Est-ce qu'il y a des coups de foudre dans le Kama Sutra? Est-ce que le moment du ravissement?
Non.
Jamais,
non,
hein.
Au contraire, il faut, par exemple, tout à fait à la fin du Kama Sutra, on a ces remarques qui marquent l'aspect anti-passionnel même. Dans la tout à fait dernière partie, les quelques versets de la fin, on dit cet ouvrage... Et surtout les pratiques qu'il propose sont pour celui qui n'agit pas par passion. Un homme qui en connaît le sens réel voit ses propres convictions et les voies du monde pour ce qu'ils sont, et il n'agit pas par passion. Un homme qui connaît le sens réel de ce traité se maîtrise et maîtrise véritablement ses sens. Il ne s'abandonne pas trop à la passion. Voilà.
Ah oui.
Donc on est dans deux registres qui sont assez différents en fait.
Autrement dit, il n'y a pas d'amour conjugal. Ça c'est une question très importante pour l'Inde en tout cas.
Oui, bien sûr, il y a de l'amour conjugal en Inde et vous le savez bien.
Moi je ne crois pas.
Oui, bon, je pense qu'il y a...
Il y a 99% des mariages arrangés, voilà pourquoi je dis que je ne crois pas.
Ah oui, non, mais ça d'accord, mais je veux dire au niveau des textes, l'amour conjugal est célébré comme un idéal.
Ah oui, voilà,
c'est ça que je veux dire.
Comme un idéal inaccessible.
Oui. Ah non, alors après, il n'y a pas d'amour coup de foudre qui amène au mariage. Oui, ça, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Inde.
Alors, Abdel Hawab, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette histoire d'ascèse et de mystique? Et est-ce que... Et by the way, dans la même question, qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux à acclamer son amour avant le mariage?
Ça, écoutez, c'est le code, hein, et à mon avis, c'est poussé à l'extrême pour créer le mythe. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette dissension énorme entre les deux clans de Vérone à propos de Roméo et Juliette, hein. Il faut bien du drame, hein, je pense. Mais ça paraît fou, en effet. Surtout, il y a eu des moments de médiation qui sont passionnants, et comment ils ont été rejetés, et comment on dit très précisément que l'autorité, j'ai oublié de le dire, l'autorité a déclaré licite le versement de sang de Qais si jamais il continue à hanter les lieux de Leïla.
Ce qui veut dire qu'on peut le tuer sans...
Condamné à mort, voilà, pratiquement.
On peut le tuer sans problème.
Oui, oui, d'où le retrait donc de Qais qui fait que, justement, sédition... Séduction, sédition, c'est toujours pareil. Non, ce qui est passionnant avec ce mythe littéraire, c'est qu'il naît dans une tradition poétique qui était, surtout celle de la poésie de l'anté-islam, profondément charnelle, où l'acte d'amour était charnel. Je vous donne un vers de cette tradition-là, un poète un peu brigand, un peu voyou, ils étaient très 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 aimés. J'ai aimé trois choses dans notre monde, monter la chair, manger la chair, frotter la chair dans la chair. Voilà, c'est clair. Et c'est donc de cette tradition-là que va naître cet amour, je dirais, éthéré, plus que platonicien, voilà. Alors, pour votre...
Est-ce qu'elle n'est pas mariée, Leïla, à un moment donné ?
Elle a été mariée.
Oui.
Pour qu'elle soit définitivement interdite, elle a été mariée. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur quid de son mari, les conditions, les circonstances de son mari. Les récits sont multiples, ceux qui sont rapportés par Sfahani. On a trois ou quatre scènes possibles concernant le mariage de Leïla. Et en même temps, Leïla est toujours troublée, mais elle apparaît à peine. C'est ça qui est étonnant. Elle est dans le trouble, elle est dans le souvenir de Qais, elle est dans la désolation terrible quand on lui dit qu'il devient fou, qu'il vit avec les bêtes. Et alors, cette autre chose passionnante quand il vivait avec les bêtes, c'est l'identification de Leïla à la gazelle. Et là, nous avons des anecdotes absolument magnifiques.
C'est donc exactement le contraire. On a un
Par exemple, un loup qui commençait à manger une gazelle, Qais qui sort fou, furieux, il tue le loup, il enlève la part de gazelle du ventre du loup, il enterre avec une cérémonie inouïe la gazelle, les restes de la gazelle, et il brûle le loup.
Et la part de gazelle dans le ventre du loup, c'est Leïla.
Voilà. Alors, votre autre question, hein, à 16 et plaisir.
Oui, j'étais alors, en train d'y penser, on n'est pas très loin là quand même.
Oui, alors là on a toutes les positions. Hein. On a dans la tradition de la mystique, celle qui reprend le mythe, on a la 16 qui est dans l'espèce de asexuée. Totalement asexué, mais revendiqué comme tel. Il y a un grand maître du soufisme, d'ailleurs beaucoup inspiré, il dit lui-même que un de ses sa formation, celui qui l'a initié à ce qu'il appelait la science de l'unité, c'est un Indien, c'est le fameux Abou Yazid Bastami, qui a vécu entre la fin du 8e et le début du 9e siècle, sur lequel j'ai travaillé et j'ai donné en français les quelques 500 anecdotes, actes et dits que la tradition lui attribue. Lui, vraiment, c'est extraordinaire, ce rapport, je veux dire, il est dans le non-rapport sexuel, et réclamé comme tel. Et se lamentant en disant, notre prophète a tellement aimé les femmes, il nous recommande d'aimer les femmes, et moi, là, je n'ai aucune réaction possible. Et alors, c'est extraordinaire parce que là, il développe...
Il est impuissant ou il ne peut pas ?
Asexuel, il est hors de cela, au point que les femmes devant lui se dévoilent. Parce que elles voient en lui une sœur. Il y a une tension qui est très souvent présente dans la mystique. Actuellement, on est dans la mode des gender studies, tout ça, mais il y a vraiment une tension extraordinaire, telle que nous la retrouvons, d'ailleurs, c'est Saint Jean de la Croix, parce que j'ai travaillé sur ces deux figures, entre sexe et genre. C'est-à-dire cet homme qui est,
Krishna,
de, oui, qui est de sexe masculin Krishna. Et de genre féminin.
Ouais.
C'est passionnant. Et tout son travail se déploie. Et alors, du coup, le rapport avec le féminin et avec les femmes, ça crée une topique absolument extraordinaire, passionnante. Et à l'opposé, nous avons une figure un peu à la chrétienne, c'est-à-dire le devoir de mariage pour finalement trouver le lieu légal et officiel de l'exercice de la sexualité pour s'en débarrasser. C'est-à-dire une espèce de libido, se débarrasser de sa libido pour s'occuper des choses sérieuses. Ça, c'est incarné par quelqu'un comme Ghazali. Et chez Ibn Arabi, c'est tout à fait autre chose. C'est par le corps qu'on parvient et par le charnel qu'on parvient à l'amour divin.
Je ne rêve pas si je vous dis que dans les deux cas, ce sont des expressions formulées par des hommes.
Oui. On est à l'époque où les hommes étaient dominants.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable à Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple.
Si, nous avons
une femme.
Ah oui, Rabia al-Adawi, une des toutes premières soufis.
Rabia, ouais.
Oui, celle-là même qui a inventé à l'intérieur du corpus de la mystique islamique l'amour divin. Je t'aime de deux amours. Il y a un vers très très célèbre chanté par Om Kulthum. Mm. Et elle est très ancienne, elle date du 8e siècle. Elle est de Basra.
Donc il y a une possibilité d'inceste féminine amoureuse.
Alors il y a un livre entier qui est consacré aux femmes soufis qui est du 10e siècle.
Oui.
Et une de ces femmes me paraît passionnante parce qu'elle a été protagoniste avec le fameux Abu Yazid Bistami que j'ai signalé tout à l'heure. Son mari aussi était un maître du soufisme, Ibn Khudrawayh. C'était une femme très très riche. Elle lui a dit, je te rends l'intégralité de ta dot et plus si tu m'emmènes chez Bustami. Elle va chez Bustami avec son mari. Et dès que justement elle entre chez Bustami, elle se dévoile. Son mari lui dit, mais tu te dévoiles devant un étranger. Et la réponse de la dame, c'est qu'en le regardant, je perds toute libido, je me retourne vers toi, je retrouve ma libido. Et à la fin, donc.
Ça, c'est fort.
Oui. Et à la fin, Ibn Khudrawayh demande au grand maître un conseil, donnez-moi un conseil. Et le conseil du maître, apprenez l'esprit chevaleresque de votre femme.
Chevaleresque, c'est intéressant. Et. Est-ce qu'on peut essayer d'évaluer ça c'est une question complexe et je ne demande pas que on va y aller à tâtons si vous voulez bien la place actuelle du Kama Sutra en Inde et la place actuelle de ce mythe littéraire dans le monde arabe. Est-ce que ça a un sens de poser cette question?
Oh ben oui, ça a un sens en ceci que pour le Kama Sutra, il est toujours inspirant parce qu'il y a énormément de représentations. Et je dirais, bon, tous ceux qui sont allés en Inde savent qu'il y a une iconographie dans laquelle baigne l'hindouisme et qui est vraiment apparentée au Kama Sutra, les illustrations de posture, etc. Donc ça veut dire qu'il y a encore ce que je disais du désir, ça parle toujours. Je pense.
À ce propos,
ça parle toujours à l'Inde. Mais.
Pardon de vous interrompre. Il y a bien dans les sculptures de Kajuao, il y a bien une figure zoophilique.
Oui.
Alors, comment ça s'articule avec le Kama Sutra?
Dans les Kama Sutras, on ne parle pas de zoophilie.
Du tout.
Donc, ça, c'est une autre tradition. Et je ne sais pas identifier les textes, mais le Kama Sutra n'est pas responsable de ça, si je puis dire. Parce qu'il parle essentiellement des humains. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tendance intégriste, fondamentaliste dans l'hindouisme et que cette tendance est extrêmement puritaine, comme dans toutes les tendances fondamentalistes ou intégristes.
Donc dans ça, le monde entier, quelle que soit la religion.
Pour les fondamentalistes hindous, le Kama Sutra, c'est une espèce de décadence, de dégénérescence de l'esprit indien. C'est comme une verrue sur la culture indienne. Enfin, c'est vraiment quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il dirait jusqu'à dire quelque chose pour les Occidentaux, comme il m'est arrivé de l'entendre dire?
Quelque chose pour les Occidentaux?
Oui, ou que seuls lisent les Occidentaux?
Bah, c'est-à-dire que, moi, je n'ai pas entendu dire ça, mais ça m'étonne pas que vous l'ayez entendu dire, parce que on a quand même montré aux Indiens une façon d'être qui s'intéressait essentiellement au Kama Sutra par le petit bout de la lorgnette. Et c'est normal qu'après coup, les Indiens disent, nous renvoient ça, en disant finalement les Occidentaux ne s'intéressent qu'à cela. Donc ça, je ne suis pas étonnée.
Alors, le Mejnoun maintenant.
Autant de cette culture élitiste éclairée où le débat pendant l'entre-deux-guerres avec les ténors de l'époque en Égypte était de savoir qu'est-ce qui était le plus efficace, qu'est-ce qu'il fallait adapter à l'arabité, les lumières anglo-saxonnes ou les lumières françaises. Il y avait les ténors qui défendaient les lumières anglo-saxonnes et les ténors qui défendaient les lumières françaises. En ce temps-là, l'entre-deux-guerres, le grand poète de cette culture, qui s'appelait donc Chaouki, Ahmed Chaouki, et qui avait le titre de prince des poètes, à l'époque donc de la monarchie et du règne de Fouad, l'époque au reste, je le rappelle, Fouad qui a fondé un vrai campus universitaire qui a disparu par la suite, par la démocratisation, par le Ba, par Nasser. Donc à ce moment-là, Ahmed Chaouki avait écrit donc un long poème qui a été mis en musique et en opéra par le plus grand compositeur du siècle, Mohamed Abdel Wahab. Et j'ai souvenir, enfant, c'est quelque chose qui continue d'emplir mon oreille, la voix ténor terrible du père de Leila. Je t'attubu naran fa ahraqta ad-dara nara, c'est-à-dire vous êtes venu demander de la braise parce qu'il y avait un manque de braise d'une tente à l'autre et on a envoyé Qais dans la tente de Leila pour emprunter la braise, ça se fait souvent au milieu bédouin, vers donc la tente de Qais, et il était tellement en fascination, et les deux, l'un dans l'autre, elles se regardaient au point que la braise s'est éparpillée et il y a eu incendie. Donc voilà, vous êtes venu demander de la braise et vous avez mis le feu dans la maison. Oui. Voilà, voilà quelque chose qui me revient de cet opéra qui était très souvent diffusé à la radio.
Et qui était joué aussi sur scène ?
Oui, oui, oui.
Et maintenant ?
Maintenant, bon, tout cela paraît... On va y revenir, forcément. C'est ce que cherchent à faire les Égyptiens actuellement, après...
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Y a tout ce corpus. Forcément, un jour, on va y revenir. Pour.
Mais on qui ?
Ces pays-là. Nous. Nous allons y revenir. Nous veillons. Mais pour revenir au Kama Sutra... Bon, c'est vraiment le...
C'est pas mes Kama Sutra. Hein,
mais... Oui, oui.
Protestation de la
non,
dame.
Non, je veux dire, l'association, c'est pour créer du décalage, je pense. Parce que
oui,
il y avait dans le corpus de langue arabe et dans les cultures d'islam, d'autres textes qui auraient été plus en adéquation dans leurs différences, évidemment.
Et inversement,
oui.
Il y aurait eu d'autres textes.
Voilà. Je pense à deux
dans
textes.
Dans la mystique hindoue,
voilà.
Qui auraient convenu.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Donc là, on joue le grand écart dans le protocole du décalage.
On cherche ce qu'on fait du corps.
Voilà, voilà. Mais parce que le livre, le fameux. Collier de la colombe, avec comme sous-titre de l'amour et des amants d'Ibn Hazm, qui est un livre qui nous vient de 1020-1023 du milieu cordouan, juste après l'effondrement du califat, en pleine guerre civile, qui est un texte absolument époustouflant et majeur et très important pour l'hypothèse arabe concernant l'amour courtois. Il est ambivalent et le sexe est très présent et le plaisir est très présent, sans parler évidemment des manuels d'érotologie qui sont très 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 nombreux et le plus célèbre parmi eux, celui qui a été traduit, on dit c'est probablement vrai tellement c'est bien écrit, que ce serait Guy de Maupassant qui avait réécrit la traduction et qui a eu un immense retentissement dans cette espèce de milieu bourgeois libéral et libertin de la fin du 19e siècle, le fameux Jardin parfumé du Cheikh Nafzaoui.
Oui.
Là, avec ces deux textes, on aurait pu trouver des éléments de comparaison beaucoup plus. Et oui, là, c'est donc, c'est vraiment l'amour, l'amour au plus physique et la recherche la plus immédiate du plaisir et l'affinement du plaisir et la discipline du plaisir au nom du Dieu et au nom de la religion.
Vous voyez quand même bien qu'on a discipline à 16, on est quand même, on peut pas. Moi, j'ai cherché justement à mettre en scène ce grand écart pour montrer qu'il n'a pas forcément toute pertinence, hein, qu'il y a dans la mystique du sexe et il y a dans le rapprochement charnel de la mystique. On va peut-être passer la parole à nos auditeurs. Allez-y, madame.
La question s'adresse à Abdelawab Medeb. En vous écoutant parler de Majnoum et Leila, j'ai pensé à un conte européen qui décrit l'amour entre un prince et une fée. Ils se rencontrent dans une forêt et la fée lui dit « Surtout ne parle jamais de notre amour, car si tu en parles, il disparaîtra. » Et donc, c'est la question du secret en amour. Est-ce que le péché, si j'ose dire, de Majnoun, c'est pas d'avoir parlé et donc d'avoir trahi l'amour. Et après, il ne fait que parler sur sa trahison quelque part.
Lui, il voulait parler à tout prix. Hein. Il ne pouvait pas s'empêcher de...
Mais pourquoi est-ce qu'il ne lui parlait pas à elle? Pourquoi est-ce qu'il parlait sur elle? Est-ce que ce n'est pas une métaphore de... Comment dirais-je une impossibilité de dialogue? C'est plus facile de parler sur quelqu'un que de parler à quelqu'un.
Moi, je trouve que le fragment que j'ai cité de Barthes est remarquable là-dessus. C'est que je pense qu'il ne cherchait pas à ce qu'il y ait dramaturgie et durée de l'amour. Il voulait préserver ce tout premier moment pur, non entaché, je pense. Je pense véritablement. Ce moment du ravissement. C'est pour cela
c'est le moment du coup de foudre.
Oui,
ça.
c'est le chant d'amour qui a enterré la figure d'amour. La figure d'amour n'existe pour ainsi dire plus. On n'est plus du tout. On connaît les fameuses catégories de Bartine, la prose est dialogique, le poème monologique. Mais alors là, on est vraiment dans le poème monologique. Hein. Alors là, mais radicalement et massivement.
Est-ce qu'on peut pas aussi rapprocher ça du mythe d'Orphée qui, s'il se retourne, Père Eurydice aux enfers. Est-ce que c'est pas...
Mais je vous ai dit vraiment,
la
séquence, surtout la séquence de l'ensauvagement est en résonance réelle, et tout le monde le dit, et Michel le dit en long et en large, avec le mythe d'Orphée, bien sûr. Bien sûr.
D'autres doigts se sont levés ? Allez-y.
Bonsoir. Donc j'ai deux questions, je comprendrai si vous répondez qu'à une seule, à propos du Kama Sutra. La première, j'aurais voulu savoir, parce que d'après ce que vous disiez, on a l'impression que c'est un texte qui s'adresse exclusivement aux hommes, il me semble avoir lu, peut-être que je me trompe, des fragments qui ressemblaient un peu à un manuel de savoir-vivre qui décrivait un code de conduite à suivre pour les femmes dans la vie domestique. Donc c'est ma première question. Est-ce que j'enchaîne avec la deuxième question ou...
Ben, je réponds déjà à celle-ci en vous disant qu'il s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Et que peut-être je me suis mal fait comprendre, mais aussi, j'ai été un peu synthétique en 20 minutes. Donc il s'adresse aux hommes et aux femmes, et il y a des parties qui s'adressent plus aux hommes et puis d'autres parties qui s'adressent plus aux femmes, ou les deux. Il y a dans le texte, à un moment, on fait allusion à un mythe qui courait dans la culture indienne et qu'on trouve sous plusieurs dénominations, qui est le mythe d'un homme qui se transforme en femme afin de connaître le plaisir féminin ou les plaisirs du sexe féminin et de pouvoir ensuite en parler quand il est redevenu un homme. Donc, le Kama Sutra fait allusion à cela, à un certain moment. Donc, il est écrit par un homme qui revendique, au fond, en faisant allusion à ce mythe, qui revendique une connaissance qu'il aurait du monde à la fois sexuel et fantasmatique féminin. Voilà. Mais en tout cas, il s'adresse aux deux.
Donc, les femmes pouvaient lire le Kama Sutra ?
Oui, dans certains milieux. Elles pouvaient surtout en entendre parler. Il ne faut pas oublier que c'était une culture orale. Donc, elles en entendaient parler. Et ça faisait partie de leur éducation, en tout cas dans certains milieux.
D'accord. Et ma deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a un lien direct à faire entre l'apparition du tabou sexuel et la colonisation ?
Vous voulez dire le puritanisme ?
Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les Anglais ont été extraordinairement choqués des pratiques des Indiens. Vous imaginez, c'était en plus l'Angleterre victorienne. Et donc, ils n'ont pas compris ce qu'étaient les danseuses de temple, par exemple, qu'ils ont assimilé à des prostituées, ce qui était le cas dans certains temples, mais ce qui n'était pas le sens même de l'institution. Et ils n'ont pas compris les relations entre les sexes, en fait, et les codes qui régissaient les relations entre les sexes. Et donc, on a eu une série de lois, effectivement, qui ont été, on pourrait dire, répressives. Voilà.
Ils ont inventé la blouse sous le sari, sauf erreur de ma part.
Oui, mais ça, ils ont eu plutôt raison de le faire. Parce que,
ah bon ?
Oh bah oui, parce que les femmes intouchables devaient aller poitrine nue. Et en fait, c'était un signe d'infamie. Donc quand ils les ont habillées, et aussi les missionnaires, quand ils les ont habillées, ils leur ont donné une dignité qu'elles n'avaient pas. Donc là, ils ont plutôt bien fait, je dirais, d'une certaine manière.
Mais ils n'ont pas inventé les blouses manches longues ?
Ah oui, ça peut être aussi, oui, parce que je pensais à la blouse, le petit caraco que portent les Indiennes. Mais les femmes intouchables, dans le Sud, en tout cas, n'avaient pas le droit de se voiler la poitrine. Et elles étaient un objet, évidemment, de plaisir pour ceux qui les... Enfin, pour les hommes de caste, bien sûr.
D'autres questions ?
J'oserais, si je pouvais comparer, ou est-ce qu'on peut comparer l'arrivée du Kama Sutra à celle des Rubaïyat de Omar Khayyam dans l'imaginaire européen ? Enfin, les Rubaïyat de Omar Khayyam, c'est un poète persan qui chantait le vin et les femmes, qui date, je crois, du 12e ou du 13e siècle, enfin, le Moyen-Âge en tout cas pour l'Europe. Et donc, cette vision de l'Orient complètement dépravé, véhiculée par une certaine littérature, voilà, je pense que c'est récurrent dans la société occidentale. Et est-ce que ce n'est pas aussi alimenté par les visions furtives qu'on voit à la télévision et par d'autres, par l'enchaînement des images médiatiques qui finalement confirment la mondialisation à venir. Voilà.
La question s'adresse à qui, monsieur, s'il vous plaît ?
Je ne sais pas si c'était une question ou une constatation. Parce que je voulais participer
au débat. Non, mais je ne vois pas en quoi Omar Khayyam est dépravé ou dépravant. Je ne vois pas du tout.
Je ne parle pas d'Omar Khayyam personnellement, je ne le connaissais pas.
Non, mais je veux dire sa poésie. Je ne comprends pas.
Je veux dire par là.
Sa poésie a été perçue plutôt comme un signe extraordinaire d'un texte libéral. À tout le moins déiste, sinon agnostique, et qui était justement le signe plutôt d'un esprit libre. Et il a été chanté comme tel et perçu comme tel, et jamais comme figure négative ou comme représentation de la dépravation, je ne crois pas. Non, je crois qu'au XIXe siècle, la découverte de l'Orient en général, on était fasciné et on a projeté une forme de liberté sexuelle et non pas et d'une espèce de non-culpabilité du corps qui a été exploitée dans un processus occidental de libéralisation de toute... Enfin, il y a tout ce que dit Nietzsche sur le corps chrétien et tout, sur toute cette culture. Je crois que ça a appartenu au processus, ça a été un motif pour agir en faveur du processus de sécularisation occidentale. Ce qui est très surprenant, c'est l'inversion totale que nous avons actuellement de ce type d'imaginaire dans le rapport Orient et Occident. Comment actuellement l'islam, par exemple, se veut à tout prix puritain face à un Occident dépravé. C'est très surprenant comme inversion. Et là, cette inversion mérite que nous avons à nous interroger sur nous-mêmes, pas seulement les Occidentaux sur eux-mêmes, mais nous autres aussi, originaire d'Islam sur nous-mêmes. Pourquoi ce désir comme ça de puritanisme fou face à une tradition qui réellement ne l'était pas?
Moi, j'ajouterais que... Excusez-moi. Votre remarque me fait penser à cette question du décalage culturel. Et on projette toujours sur l'autre des éléments qui nous manquent, un monde de rêves et de fantasmes. Et si vous lisez le très beau livre d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, vous verrez que la représentation de l'Orient a toujours drainé cet aspect de sensualité, de lascivité, etc. Si vous regardez la peinture du XIXe siècle et les peintures de Harem, vous verrez ça. Vous verrez l'Orient tel qu'il a été rêvé. Si vous regardez la mort de Sardanapale, par exemple, bon, allez au Louvre, et vous verrez que c'est un fantastique drame imaginaire sur l'Orient et sur la manière dont l'Orient est à la fois voluptueux, lascif, cruel, dangereux pour l'Occidental.
Et nu,
absolument.
Au point qu'un gras rajoutait une vertèbre à la colonne vertébrale du nodalisque. Il fallait quand même y arriver.
Non, simplement, je voulais dire que Omar Khayyam, je ne considère pas Omar Khayyam comme un être dépravé, mais simplement du point de vue des Occidentaux qui considèrent, ou de nous-mêmes, moi-même qui ai vécu longtemps en Algérie, qui considèrent que l'islam est une religion très rigoureuse, que tout le monde est très pieux, etc. Et que tous ceux qui sortent un petit peu de la ligne, c'est-à-dire ceux qui boivent de l'alcool ou ceux qui paradent avec des femmes dans les rues, paraissent complètement décalés et désordonnés. Et c'est dans ce... c'est de ce point de vue-là que je voulais dire que...
Mais la transgression a été un moteur de création culturelle, jusqu'en islam.
Merci.
Mais pas maintenant.
Non, maintenant, et puis en même temps, l'islam est multiple, il n'est pas magmatique, il est traversé par des contradictions internes autrement plus prestigieuses et monumentales que les contradictions externes. On est systématiquement au bord d'une guerre civile différée à l'intérieur de l'islam.
D'autres questions? Ce sera la dernière. Hein. Oui.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir au Kama Sutra, et donc pour vous, Madame Tardan, et la question qui vous a été posée juste avant, l'avant-dernière question. J'aimerais que vous précisiez les conditions de transmission orale donc, de ce Kama Sutra, parce que dans votre réponse, il semblerait qu'il y ait quelque chose comme... c'était adressé à un certain milieu. Donc j'aimerais que vous reprécisiez
oui,
ça.
Oui, ça s'adresse explicitement à un milieu urbain, bourgeois, c'est-à-dire toutes ces castes qui sont moyennes entre les basses castes et les très hautes castes, et l'auteur s'adresse à ce milieu-là. Donc c'est un petit spectre dans la société. Et pourquoi ? Parce que ce milieu accède à l'époque Gupta à un certain raffinement, et donc il y a une adaptation, enfin dans le Kama Sutra, entre autres, parmi d'autres sources, il y a une adaptation d'us et coutumes qui étaient ceux des princes. Et les princes, donc, avaient des habitudes de cour parmi lesquelles ils avaient des comportements et des modes de vie dans lesquels la sensualité et la sexualité étaient très présents. Voilà. On ne sait pas tout hein, des Kama Sutras et du milieu dans lequel ils sont nés, mais c'est l'œuvre d'un homme cultivé, de toute façon, qui maniait particulièrement bien le sanskrit, puisque au point de vue de la langue, c'est une langue très raffinée dans laquelle il s'exprime. Et donc il fallait qu'il soit compris aussi par un certain milieu. Voilà. Et donc la transmission à cette époque est essentiellement orale.
Donc c'était dans les salons, on peut penser que c'était... Et si elle est advenue au peuple, c'est à travers l'iconographie. Plus largement, en tout cas. C'est comme
oui,
ça
l'iconographie a puisé dans le Kama Sutra, où le Kama Sutra s'est inspiré aussi de l'iconographie. Enfin, il y a
il y a un échange là, à ce niveau-là. Et en effet, l'iconographie rend visible sur les parois des temples ou dans l'art figuré, rend visible des réalités dont le Kama Sutra parle aussi. Parce que je dirais, bon, il y a l'explicite du Kama Sutra et puis il y a un deuxième degré en quelque sorte qu'on peut percevoir. Le Kama Sutra est aussi une sorte de théâtre d'ombre, je le disais au début, dans lequel l'être humain est actionné par le désir qui est le véritable sujet de l'affaire en quelque sorte.
Merci beaucoup, merci d'avoir été là.